Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
À travers leur courrier, certains de nos auditeurs nous ont posé des questions sur la pratique du jeûne dans la vie chrétienne.
C'est pourquoi, durant la série de discussions que nous commençons aujourd'hui, nous découvrirons ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Je souhaite la bienvenue à Robert, notre invité, qui va nous aider dans nos discussions. Robert, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Pour commencer, nous allons nous pencher sur le jeûne tel qu'il fut pratiqué par le peuple d'Israël dans la période de l'histoire relatée par l'Ancien Testament, qui correspond désormais à la première partie de la Bible.
Et le jeûne était-il alors obligatoire?
Parmi le nombre important de lois et rites révélés à Moïse, le jeûne communautaire était exigé seulement une fois par an, lors du jour de l'expiation. Autrement, aucun autre règlement concernant le jeûne n'apparaît dans la loi de Moïse.
C'est étonnant, mais expliquez-nous ce qu'était le jour de l'expiation et quelle était la place du jeûne en ce jour-là.
Le jour de l'expiation était une fête célébrée par le peuple d'Israël une fois par an. En ce jour-là, à l'occasion de rites et de cérémonies, des sacrifices étaient offerts afin d'enlever la culpabilité du peuple et d'obtenir son pardon auprès de Dieu. En résumé, ces sacrifices d'expiation avaient pour but de régler le problème des péchés.
Et selon vous, pourquoi fallait-il aussi jeûner ce jour-là?
La pratique du jeûne à ce moment précis était une occasion pour le peuple de réfléchir sérieusement à sa façon de vivre, à considérer ses péchés et à les confesser, à s'engager à respecter la loi de Dieu. Le fait de renoncer à se nourrir et à boire pendant une journée exprime l'intense besoin de renoncer au péché, de refuser toute pratique du mal. Le jeûne rappelle aussi que notre réconciliation avec Dieu a un coût, qu'il s'agit d'un temps, d'un événement à prendre au sérieux. Le jeûne, durant le jour de l'expiation, était l'occasion de s'humilier devant Dieu et de s'examiner devant lui.
Merci Robert. Mais le peuple d'Israël pratiquait-il le jeûne en d'autres occasions?
Comme je l'ai déjà dit, le jeûne est préconisé par la loi de Moïse uniquement lors du jour de l'expiation. Cependant, une lecture attentive de l'Ancien Testament révèle que le peuple ou certains individus pratiquèrent le jeûne en d'autres occasions.
Parlez-nous-en davantage.
À travers l'Ancien Testament, nous découvrons que des gens furent poussés à jeûner pour diverses raisons. Le jeûne fut ainsi pour certains l'occasion d'exprimer leur tristesse et leur désespoir à Dieu suite à un deuil. Des événements, tels que le décès d'un roi ou d'autres crises nationales, les incitèrent à jeûner. Ils communiquèrent par là même au Seigneur leur désarroi et leur attente de son intervention, alors qu'ils semblaient prisonniers d'un avenir tout à fait incertain.
Et de nos jours, me semble-t-il, c'est la raison essentielle qui pousse des chrétiens à jeûner. Certains s'abstiennent de manger pendant un temps, dans l'espoir d'obtenir une réponse favorable à une prière particulière. Il serait bon d'en parler davantage. Avez-vous des exemples tirés de l'Ancien Testament sur ce type de jeûne?
À vrai dire, je n'en ai trouvé que deux, ce qui suggère que cette pratique n'était pas aussi répandue qu'on ne le croit. Le premier exemple apparaît dans la vie du roi David. Souvenez-vous qu'il avait commis un adultère avec une femme nommée Bathsheba et qu'un enfant était né suite à cette liaison. Un bébé qui, d'ailleurs, tomba gravement malade. David savait que ce bébé était sur le point de mourir, alors il se mit à jeûner et à prier, demandant à Dieu d'épargner la vie de son fils, l'implorant de le guérir.
Et Dieu a-t-il répondu à cette prière?
Non, David pria et jeûna pendant 7 jours, mais son fils finit par mourir.
C'est étonnant. On peut se demander si cela valait la peine que David prie et jeûne.
Je pense que nous devons tirer des leçons très importantes de cet incident. Notamment que Dieu demeure souverain et que le jeûne n'est absolument pas un moyen pour faire plier Dieu à notre volonté. Je crains que certains conçoivent le jeûne un peu comme un rite magique qui contraint Dieu à faire ce que nous attendons de lui. Non, Nous ne pouvons pas soumettre Dieu à nos propres désirs et souhaits. Nous ne pouvons pas le manipuler par le jeûne, ni non plus faire de lui notre esclave. C'est nous qui devons nous soumettre à Dieu et non le contraire. Dieu est souverain, il est libre, puissant, et le jeûne ne doit pas être un moyen pour nous d'exercer une quelconque pression sur lui. Le récit relatant la perte de cet enfant nous apprend que David accepta par la suite la souveraineté de Dieu. Ses prières exprimèrent alors toute son aspiration, son espoir et sa volonté de se soumettre à Dieu.
Pourquoi David avait-il jeûné alors?
David avait commis des fautes très graves, l'adultère et le mensonge. De plus, il avait été jusqu'à planifier la mort du mari de Bathsheba. Puis quelques mois plus tard, il fut confronté à la forte possibilité que son fils ne meure. Tous ces événements devaient le troubler profondément, et je dirais que son jeûne traduisit essentiellement son déchirement et exprima l'immensité de sa peine. Par son jeûne, David extériorisa sa tristesse. Il afficha ses regrets quant au mal qu'il avait commis. Son jeûne était accompagné de confessions et d'un engagement à revenir sur les voies de la justice. David s'humilia ainsi devant Dieu. Il rechercha sa faveur. Il aspira à sa miséricorde.
Merci pour ces remarques. Et pour conclure, je voudrais vous demander ce que nous pouvons apprendre de la pratique du jeûne aujourd'hui.
Tout d'abord, étant donné la quasi-abstinence d'instructions à propos du jeûne dans l'Ancien Testament, il me semble sage de s'abstenir d'établir des lois ou des règlements à ce sujet dans la vie chrétienne. Autrement dit, nous sommes libres de jeûner si nous en avons la conviction, mais nous sommes aussi libres de ne pas jeûner. Le jeûne n'est pas une pratique obligatoire. Nous ne devons ni l'imposer ni l'interdire. Ensuite, à travers les exemples de l'Ancien Testament, le jeûne semble plutôt approprié pour exprimer une peine, un désir de recevoir l'aide de Dieu. Dans des situations de deuil ou de détresse, il véhicule aussi la confession de fautes graves et un engagement sérieux à changer de comportement. Enfin, nous ne devons pas concevoir le jeûne comme une pratique ou un rite garantissant une réponse favorable à une prière. Par le jeûne, nous pouvons exprimer nos aspirations, mais dans une attitude de dépendance à Dieu. L'Éternel, quant à lui, demeure souverain. Il est libre d'accomplir ses projets envers nous en son temps. Le jeûne ne le contraindra jamais à changer ses plans pour les conformer à notre volonté. Toute réponse favorable de l'Éternel à des prières ou un jeûne n'est que l'expression de sa grâce et de son amour, accordée librement selon son bon plaisir.
Merci Robert. La prochaine fois, vous serez de retour parmi nous pour nous expliquer ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé au sujet de la pratique du jeûne à cette époque.
C'est exact, Yann. Merci pour votre accueil et au revoir à tous.
Merci, Robert. Nous continuons ces discussions avec une courte méditation biblique sur le thème de la prière.
Nous allons nous pencher sur une prière de l'apôtre Paul.
Celle qu'il adressa aux Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 19. Sandra va nous la lire, puis notre invité, Étienne, nous fera part de ses réflexions.
Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Les prières de l'apôtre Paul dévoilent ses priorités. Son ardent désir que ses frères et sœurs en Christ croissent dans leur marche spirituelle. Elle nous enseigne aussi sur la façon dont nous pouvons prier les uns pour les autres. Cette prière lue révèle à quel point il est important que le chrétien comprenne l'amour de Jésus-Christ pour lui. En effet, Paul prie afin que les croyants d'Éphèse puissent vivre cet amour dans toutes ses dimensions, sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Cette approche géométrique de l'amour de Christ en quatre dimensions met l'accent sur sa force, sur sa puissance et sa grandeur. Sa nature est multidimensionnelle. Quel privilège de le connaître! Toutefois, il est si grand et si riche que nul ne parviendra jamais à entièrement le sonder. Il est si infini que jamais personne n'en épuisera sa richesse. Toute une vie ne suffirait pas pour le découvrir. Non, il nous faudrait l'éternité entière pour comprendre et saisir cet amour. La vie chrétienne est comme un voyage de découverte, effectué dans un pays inconnu où chaque coin de rue, chaque nouveau paysage offre des merveilles à découvrir, des trésors à explorer, de nouvelles expériences à goûter. Semblable à cette image, notre cheminement de foi devrait nous conduire toujours plus loin au cœur de la connaissance de l'amour de Christ, d'une connaissance non seulement intellectuelle, mais aussi vécue grâce à l'amitié qui nous lie à lui. Voilà la prière de l'apôtre Paul envers les chrétiens d'Éphèse. Et nous-mêmes, prions-nous ainsi pour nos frères et sœurs? À travers ce texte lu, nous découvrons aussi l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul prie ainsi. Son ardent désir est que les chrétiens demeurent bien fondés et enracinés dans l'amour de Christ. Ces deux images sont instructives. Contemplons seulement les arbres bien enracinés dans le sol. Ils parviennent à résister aux intempéries, à survivre durant les périodes de sécheresse. De même, les maisons ou tout bâtiment construit sur de bonnes fondations, selon les normes en vigueur, résistent aux vents les plus violents, aux pluies les plus battantes et passent l'épreuve des tremblements de terre. De même, l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens soient capables de tout endurer et de persévérer dans la foi, quelles que soient les circonstances. Tôt ou tard, notre foi sera secouée à cause d'événements tragiques, d'épreuves douloureuses. Demeurera-t-elle ferme alors? Résistera-t-elle à l'adversité? Si cette foi est solidement enracinée, solidement fondée sur une connaissance grandissante de l'amour de Christ, elle aura toutes les chances de tenir ferme et de s'épanouir, même au cœur de la plus cruelle des adversités. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie pour ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent être fortifiés par leur connaissance de l'amour de Christ et trouver par là même la force de tout endurer.
Merci Étienne pour ces exhortations enrichissantes. Prions donc les uns pour les autres, à l'exemple de l'apôtre Paul, pour lui demander qu'il nous aide tous à approfondir notre compréhension de l'amour de Christ.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre ces séries sur le jeûne et la prière. Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.